Alors donc ce matin, je vais continuer un message que j'ai déjà commencé, qui s'intitulait « Le disciple dans le monde », qui était la suite de tout le message sur le disciple de Jésus-Christ, qui est disciple, comment on le reconnaît, comment Dieu forme le disciple. Et nous en sommes venus à parler du comportement du disciple dans ce monde. Et donc ce message, en fait, j'ai fait une première partie et je vais terminer aujourd'hui avec cette deuxième partie. Et je vous rappelle simplement que dans la première partie, j'avais rapidement défini ce que c'est qu'un disciple en disant qu'un disciple est un saint, au sens biblique du terme. On a vu que les saints sont appelés saints dans la Bible et que cela signifie avant tout qu'ils sont sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu et surtout mis à part du monde. Et donc la Bible nous demande d'avoir une séparation du monde. Non pas une séparation physique, la Bible ne nous demande pas de nous retirer dans des monastères ou au désert, mais d'avoir une séparation morale et spirituelle. Nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais séparés moralement et spirituellement. C'est ce que nous avons vu, et nous avons donné quelques illustrations, par exemple, concernant cette séparation spirituelle, où le Seigneur nous demande de ne faire aucune alliance religieuse impropre. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, toutes les théories ou les doctrines qui ne sont pas conformes à la parole, le Seigneur nous demande de ne pas faire alliance avec ces choses-là. Et ça a été, comment nous avons rapidement expliqué ce que c'est que cette séparation spirituelle. Nous avons également parlé de la séparation morale, à travers le rejet des valeurs du monde. Il nous est demandé de ne pas nous conformer aux valeurs de ce monde, parce que le monde est géré par Satan, c'est ce que nous avons vu. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Nous apprend la Bible. Donc c'est Satan qui gère le monde aujourd'hui et que nous n'avons pas à nous intégrer à ce que Satan est en train de faire dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie que j'ai annoncée déjà la dernière fois pour parler des fruits qu'apporte cette gestion du monde par Satan. Qu'est-ce que ça donne comme fruit? Et nous allons également voir quelle doit être notre réaction face à ces fruits que produit la gestion du monde par Satan. Il est facile de voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de ténèbres. Et les ténèbres s'amoncellent de plus en plus au-dessus de notre tête. Le monde est embourbé dans de véritables ténèbres du fait de la gestion du monde par Satan. Et j'aimerais donner juste quelques illustrations de ces ténèbres qui nous englobent aujourd'hui en prenant deux exemples qui sont la télévision et Internet. Aujourd'hui, quand vous voyez les films qu'on passe à la télévision, ou les clips vidéo, ce qu'on remarque, il y a trois choses que vous allez toujours remarquer dans ce qu'on nous propose de plus en plus aujourd'hui, c'est de la violence, beaucoup de violence, c'est de la magie. La magie et la sorcellerie sont devenues des choses que l'on présente très facilement. Nous savons que Dieu condamne ces choses-là. On les voit de plus en plus dans les films. Et il y a une troisième chose que l'on retrouve tout le temps, c'est le sexe. Voilà ce que Satan nous propose et qu'il étale dans tout ce que nous voyons, que ce soit dans les films. Même parfois, on peut avoir envie de regarder un film apparemment inoffensif, un film sur une enquête policière, par exemple. Donc, on s'attend à ce qu'une intrigue policière soit résolue. Donc, ça peut être très intéressant. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'on remarque, même dans un film de ce style-là, on est obligé de montrer souvent le cadavre démembré, ensanglanté, où on va montrer même les autopsies, où on voit le corps coupé par le médecin légiste, des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais aujourd'hui, on est obligé de présenter ces choses-là, des corps complètement dans des états qui n'honorent pas forcément le film, hein, un film d'enquête policière. On pourrait s'attendre à ce qu'on nous dise qu'il y a eu un meurtre, et puis après, on va dérouler l'intrigue policière. Mais aujourd'hui, on est obligé de montrer des choses abominables. Et... non seulement ça, aussi, on va voir le fait qu'un commissaire de police qui va faire une enquête, on va le voir dans sa vie intime. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il est en train de mener un film, enfin, de mener une enquête. On le retrouve avec une femme dans un lit, on ne voit pas le rapport avec le film. On montre parfois des choses assez intimes, alors qu'on est en train de parler d'une enquête policière. Et en général, l'officier va se retrouver plutôt avec une femme qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'il va nous montrer, on va glorifier encore une fois l'adultère, alors qu'on parle d'intrigue policière. Donc on est obligé de mettre tout ça dans les films. Et aujourd'hui, les films sont remplis de quoi? Qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est du meurtre. Les films sont remplis de meurtre, d'adultère, de mensonges, de cupidité, tout ce que Dieu condamne. C'est ce qu'on nous propose aujourd'hui dans les films. Tout ce que Dieu déteste et condamne, c'est ce qu'on nous propose de façon, dévoilée, sans aucune dignité. Et moi, il m'arrive souvent de prendre le train, notamment quand je viens ici, quand je fais Nantes-Lyon, je prends le train. Et aujourd'hui, ce que les gens font pour passer du temps dans le train, c'est qu'ils regardent des films sur leur ordinateur portable. Il m'arrive parfois d'apercevoir, très souvent d'ailleurs, hein, le voisin qui regarde un film, et on jette un coup d'œil, parfois je vois des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant dans un train. Les gens ne se cachent plus pour regarder des abominations. C'est devenu chose banale. Et voilà le monde dans lequel nous nous trouvons. Les émissions de divertissement à la télé, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui? Du voyeurisme, on va montrer la vie intime des personnes, on va montrer des vies intimes mais qui n'honorent pas du tout Dieu. Hein. On va nous dire que telle personne, une personne va expliquer comment il trompe sa femme avec intelligence. Voilà. Ce sont des choses qu'on va montrer, on va faire des émissions là-dessus pour divertir les gens. De plus en plus, ce qui marche aujourd'hui, hein, la télévision, c'est la télé-réalité où les gens vont montrer leur vie privée, parfois des choses qui ne sont pas du tout honorables. Et le monde est friand de cela. Et c'est ce que nous propose la télévision. Alors, si nous prenons Internet, qui propose les mêmes choses, les mêmes vomissures qui nous sont déversées, mais Internet a encore un avantage, si on veut, entre guillemets, c'est qu'il... Ça permet aux gens de choisir un peu ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, la pornographie est devenue chose étendue comme on ne peut pas imaginer, parce que l'Internet en propose. Voilà ce que le monde nous propose. Voilà ce que la gestion du monde par Satan nous propose. Je dirais que les écrans, que ce soit l'écran de la télévision, l'écran des portables, des téléphones portables, ou l'écran des ordinateurs, sont devenus des fenêtres par lesquels le monde vient déverser ses ordures chez nous. Voilà, les écrans sont devenus ça. Et nous devons... Quelle doit être alors notre réaction par rapport à cela? Nous sommes conscients que ça ne va pas, que ce qu'on nous propose n'honore pas du tout Dieu. David, le psalmiste, dans le psaume 119, verset 37, dit ceci, il prie Dieu, il lui demande « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Et dans le psaume 101, verset 3, il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » David insiste sur ce qu'on met devant ses yeux, ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous l'a dit. Le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. » Notre œil, c'est très très important pour nous. C'est la fenêtre par laquelle on peut envoyer des choses à l'âme. Et c'est pour ça que David dit « Seigneur, détourne mes yeux de ça, de certaines choses. Et je ne veux pas mettre des choses mauvaises devant mes yeux. Ah, imaginez aujourd'hui ce que les gens voient sur Internet, à la télé. Les yeux reçoivent toutes les abominations que le monde propose. Et donc, notre réaction à nous, c'est de détourner notre regard de ces choses-là, évidemment. Et parfois même, quand on essaye parfois de se protéger, il arrive que même en regardant sur Internet, des sites tout à fait louables pour commander quelque chose. On a des images qui apparaissent, des propositions qui sont faites. Et il faut là aussi protéger son ordinateur. Il y a parfois des logiciels qui permettent de bloquer certaines choses. Si vous avez l'occasion, faites-le. Parce que parfois, même sans le vouloir, il y a des choses qui sont proposées, mais il y a des logiciels parfois qui permettent de se protéger de certains sites. Donc n'hésitons pas à nous protéger, parce que protéger son ordinateur dans ce cas-là, c'est protéger notre âme. Voilà. Donc on ne doit pas se dire simplement « oui, mais je n'y paie rien ». Mais s'il y a des moyens de se protéger, ben, il faut se protéger. Parfois, on n'a pas trop le choix. On passe en ville, on peut passer en ville, et il y a des images qui sont proposées sur les affiches publicitaires qui nous agressent. Même quand on ne le veut pas, on tombe sur des choses qui laissent à désirer pour nous, enfants de Dieu. Mais là aussi, notre seule réaction, c'est de détourner le regard. Que nos regards ne s'attardent pas sur ces choses abominables qu'on nous propose. Le corps de la femme aujourd'hui qui est proposé comme une idole découverte et que tout le monde trouve normal aujourd'hui. Parfois, il n'y a pas que le corps de la femme. On voit même parfois des couples dans des, sur des affiches, dans des positions assez équivoques. Et nous, ben, enfants de Dieu, nous sommes choqués. Nous sommes agressés par ces choses-là. Mais c'est ce que le monde nous propose. Nous n'avons d'autre choix que de détourner notre regard et au lieu de nous attarder à voir ces choses-là. Et parfois, je suis personnellement en colère quand je vois certaines choses qui m'agressent dans la ville. Parce que je n'ai pas trop le choix. Et où je suis parfois avec mon enfant, ma fille qui n'a que 13 ans. Et voilà, je me dis, qu'est-ce que le monde lui propose? Parce qu'elle passe dans la rue. Et voilà, pour une petite enfant, on voit des choses qu'elle ne devrait pas regarder. Déjà, les adultes ne devraient pas regarder, mais je trouve que c'est encore plus grave pour les enfants. Et j'ai une colère qui monte en moi parfois quand je vois des choses qui sont proposées. Et ça me fait penser à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui parle d'une irritation. Il était dans la ville d'Athènes. Vous allez trouver ça dans cette histoire, dans Actes chapitre 17, verset 16, où il nous a dit que comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul était irrité, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a que de l'irritation qui peut monter en nous quand on voit certaines choses qu'on nous propose dans une ville. Et Paul était irrité, et il n'était pas le seul. On a d'autres exemples dans la Bible où quand ce n'est pas de l'irritation ou de la colère, ça peut être de la tristesse ou même du dégoût par rapport à ce qu'on voit. Toujours le psalmiste David, dans les psaumes, toujours dans le psaume 119, j'aimerais vous lire les versets 53, 136 et 158. David dit « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta loi. » Nous, enfants de Dieu, il est normal que parfois nous soyons dégoûtés par ce qu'on nous propose, que nous soyons irrités, que nous soyons attristés, que nous soyons... David, il pleurait, il versait des torrents d'eau parce qu'on ne respecte pas la loi de Dieu. Et je pense que c'est normal que le croyant, le disciple de Jésus souffre de voir certaines choses dans le monde. Et bien avant les disciples de Jésus, il y avait... Nous pouvons lire ceci dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Et on nous raconte un peu ce que vivaient les enfants de Dieu à l'époque, ceux qui étaient vraiment attachés à l'Éternel. Il est écrit « L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des enfants qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » C'est-à-dire que les enfants de Dieu, ceux qui sont attachés à l'Éternel, gémissaient. Ils souffraient de voir ce qui se passait dans la ville. Voilà, c'est ce que nous relate la Bible. Et bien avant cela, avant que Dieu ne détruise les villes de Sodome et Gomorre, c'était tellement rempli d'abominations que l'apôtre Pierre va nous rappeler ce que ressentait Lot le juste, que Dieu a sauvé de Sodome et Gomorre. Et c'est dans sa deuxième lettre que l'apôtre Pierre nous relate cela, chapitre 2, versets 6 à 10. Pierre dit « Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en silence les villes de Sodome et Gomorre, les donna comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein et dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Voilà, on nous parle de Lot qui vivait à une époque où l'abomination s'était tellement répandue dans la ville qu'il souffrait. Parce que quand on aime Dieu, on ne peut que souffrir en voyant étaler ce que Dieu condamne et ce que Dieu déteste. Et il se trouve que si Dieu a détruit Sodome et Gomorre, c'est parce que l'abomination est montée tellement haut. Mais la Bible nous prévient qu'avant que le Seigneur ne revienne, nous allons revivre la même chose. L'abomination va tellement monter, et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, qui nous prophétise cela en écrivant sa deuxième lettre à Timothée. Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Il lui dit, c'est une prophétie qu'il lui donne à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et Paul termine en lui disant, « Éloigne-toi de ces gens-là. » Donc, on retrouve ici la notion de la séparation. « Éloigne-toi de ces gens qui commettent ces choses. » Donc, aujourd'hui, ce que nous voyons, on est en plein dedans. Paul cite un certain nombre de comportements, et il n'y a qu'à regarder notre monde aujourd'hui pour se dire, « Tiens, on y arrive. » Mais on nous demande de nous éloigner de ces choses-là, de nous séparer de ces choses. Face à ce monde de ténèbres, comme j'ai dit, les ténèbres s'amoncellent et tombent sur nous dans ce monde. Que devons-nous faire? C'est toujours l'apôtre Paul qui nous donne un conseil en écrivant aux Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Il nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Les convoitises, c'est vraiment ce qui caractérise le monde aujourd'hui. On est les convoitises de la chair. Qu'est-ce qu'on veut? La chair a besoin de choses qui impressionnent. Il y a des gens qui sont passionnés par la puissance mécanique, la grosse voiture qui va vite, ou les biens matériels qui en jettent plein la vue. Ça, ce sont les convoitises de la chair, les convoitises de ce monde, les convoitises charnelles. Les gens sont aujourd'hui attirés par les possessions matérielles. Le plus gros téléviseur possible, ou le téléphone portable le plus récent, même si on n'en a pas besoin, mais au moins ça impressionne le voisin. Ça, ce sont les convoitises de la chair pour impressionner les autres. Voilà, et la Bible nous dit de nous éloigner de ces choses-là. Si je suis un enfant de Dieu et que j'ai besoin d'un téléphone comme tout le monde, j'imagine ce que Jésus aurait comme téléphone, quelque chose de simple, pour pouvoir communiquer. Mais le monde va au-delà de ça, c'est plutôt impressionner les autres avec ce que je possède. Et on convoite de plus en plus. Ce que j'ai ne me suffit pas, il me faut toujours le dernier qui sort. C'est de la convoitise. Et dans sa première lettre, au chapitre 3, versets 3 à 4, l'apôtre Pierre nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Quand on lit ça, on pense que Pierre s'adresse d'abord aux femmes, en parlant de cheveux tressés, d'ornements d'or. Donc peut-être que certains hommes vont se dire, tiens, je vais pouvoir lire ce verset à ma femme pour éviter quelques achats de toilettes. Mais je pense que cela nous est adressé à tous, hommes comme femmes. Nous sommes tous concernés. Et ce qu'on nous demande ici, en fait, c'est la parure extérieure, ce que je vais montrer aux autres. Et toutes les possessions matérielles que les gens aiment montrer aujourd'hui, que ce soit les habits, les voitures, tout ce que j'ai cité, qui sont les parures extérieures. Mais ce qu'on nous demande à nous, c'est plutôt une parure intérieure, quelque chose qui plaît à Dieu, et que Dieu seul voit, parce que c'est à l'intérieur de nous, mais que Dieu apprécie. Et cela passe essentiellement par notre comportement. C'est notre comportement qui va montrer aux autres, qui va montrer à Dieu ce que nous sommes réellement. Et malheureusement, il y a des personnes comme dit l'apôtre Paul, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il y a que l'apparence de la piété se trouve, c'est des personnes qui, comme j'avais dit, les faux disciples, on avait eu un message sur les faux disciples, des gens qui se disent de Christ, mais qui n'ont pas le comportement chrétien. Et je peux vous proposer une devinette, par exemple, quelle est selon vous la queue de poisson la plus intéressante qu'on puisse vous faire sur la route? Vous savez, une voiture qui vous coupe la route très rapidement devant vous. Imaginez la plus belle qu'on puisse vous faire. C'est lorsque la voiture qui vous fait la queue de poisson a un poisson derrière elle. Un comportement du monde, mais on voit un poisson bien fièrement affiché derrière la voiture, comme quoi je suis disciple du Christ. Mais le comportement ne va pas avec. Et j'ai eu une expérience une fois, j'essayais de doubler une voiture, et quand je suis arrivé à la hauteur de la voiture s'est mise à accélérer pour m'empêcher de la doubler. Donc je me suis rabattu derrière la voiture, et qu'est-ce que je vois? Un poisson. Donc on voit des comportements comme ça où des gens montrent, se disent qu'ils sont chrétiens, ils affichent des choses, on affiche par des choses matérielles qu'on est disciple du Christ. Et on m'a raconté aussi une histoire, c'est une femme qui s'est fait arrêter par les policiers. Elle n'avait pas fait une grosse infraction, mais les policiers l'arrêtent et demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais les policiers disent « Mais on vous soupçonne d'avoir volé la voiture. » Elle dit « Mais comment ça se fait ?» Ben parce qu'on a lu derrière votre voiture un verset de la Bible. Et votre conduite n'avait rien à voir avec ce verset. Donc on s'est dit que ce n'était pas à vous la voiture. Voilà. Et donc on affiche des choses comme ça, soit une croix, un poisson, un verset, mais notre comportement n'a rien à voir avec ce qu'on affiche. Moi, je n'ai rien contre les poissons ou les croix ou les versets sur les voitures. Hein. Simplement, ce qu'on nous demande, c'est plutôt que notre comportement reflète la lumière du Christ. Voilà. C'est de cette parure que nous parle l'apôtre Pierre. C'est pas ce que nous affichons sur les voitures qui compte. C'est notre comportement qui compte. J'ai une dernière anecdote à vous raconter. Ça se passe au Togo, où un chrétien va parler à un adepte vaudou. Le vaudou, c'est une religion qu'il y a avec un certain nombre d'adeptes, et ils ont leur système. Ils ont même des codes moraux extrêmement stricts. Donc, ils essaient de vivre proprement et tout. Et donc, un chrétien va proposer à un adepte vaudou de se convertir à Christ. Mais l'adepte est surpris qu'on lui propose ça. Parce qu'il dit, mais comment vous voulez que je devienne comme vous? Parce que tous les chrétiens qui sont dans mon quartier sont voleurs, adultères, menteurs, mais chez nous, on ne fait pas ça. Donc on voit le témoignage. Et il disait vrai, parce qu'il y a des gens qui s'affichent chrétiens, mais leur comportement, quand on va dire à d'autres personnes qui ne connaissent pas Christ, deviens comme nous, il va dire, oh, mais attendez, ce que vous faites, non merci, je préfère encore ma religion où on est plus propre que vous. Donc, le nom que nous affichons, le nom de chrétien, comme je l'avais dit dans le message concernant le faux chrétien, le nom n'impressionne pas Dieu et n'impressionne pas le monde non plus. Ce qui compte, c'est notre comportement. Nous devons porter le nom de Christ réellement dans notre comportement. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 3 et 4, on nous parle de comment ça va être dans le paradis. Il est dit « Il n'y aura plus d'anathème ». Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc, les enfants de Dieu auront le nom de Jésus sur leur front au paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont recevoir ce nom au paradis. C'est un nom qu'il faut porter dès maintenant. On ne peut pas avoir un autre nom sur la terre et avoir le nom de Jésus au ciel. C'est ceux qui ont le nom de Jésus qui y vont. Donc le nom de Jésus, nous le portons dans notre comportement, qui doit être différent du comportement du monde. Et nous devons nous rendre compte que nous sommes, comme dit la Bible, des ambassadeurs de Christ. Partout où nous sommes, nous représentons le Christ. Et donc nous devons avoir son nom sur notre front, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Le monde doit sentir une différence. Parce que nous sommes les ambassadeurs du Christ, pardon, comme le dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, partout où nous sommes. » Et donc, si on est ambassadeur, on doit représenter le Christ dans notre façon d'être, en portant la lumière du Christ dans notre comportement. Notre comportement doit être radicalement différent de celui du monde. C'est-à-dire que quand les gens nous voient, ils doivent se dire, mais celui-là, il a quelque chose de différent. Et le monde a une façon de parler, une façon de se comporter, mais ça doit faire, on doit sentir la différence entre le chrétien et le monde. Et l'apôtre Paul nous dit, en écrivant aux Éphésiens, chapitre 5, j'aimerais vous lire les versets 1 à 7, où Paul nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, à Dieu, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Toujours la séparation. N'ayez aucune part avec ça. Et on nous parle des saints, nous sommes des saints. Un chrétien est un saint, au sens biblique. Il est mis à part du monde. Et on nous demande d'avoir... Il y a des plaisanteries qu'on entend parfois dans le monde. Les chrétiens ne peuvent pas les faire. Il y a des mots que les gens utilisent dans le monde. Le chrétien ne peut pas utiliser certains mots. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit qui est en nous ne supporte... Enfin, est irrité, ou attristé plutôt par des mots que des gens peuvent... Qu'on entend tous les jours hein, dans le monde. Les gens dans leurs plaisanteries ou... Voilà, et le chrétien, il est en dehors de ça. C'est un saint, il est mis à part. Et la Bible nous dit que nous sommes une lumière dans ce monde de ténèbres. Les ténèbres sont là, sont en train de s'accumuler, mais nous sommes une lumière. Nous l'avons vu, les ténèbres, on les voit à travers la violence, comme je l'ai dit, hein, comme le sexe exposé, le mensonge, la cupidité, le refus de l'autorité qu'on voit aujourd'hui. Et nous, Jésus nous dit, d'ailleurs, dans Matthieu 5, versets 14 et 16, « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà, c'est-à-dire que ce que nous faisons, notre comportement, c'est la lumière du monde. Et c'est ce que les gens doivent voir et dire « Ah, Dieu est grand. Dieu qui est leur Père est grand. » C'est par notre comportement. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile de toujours bien se comporter. Nous sommes parfois aussi attirés par ce que fait le monde. Et comment donc y parvenir? Évidemment, le Seigneur nous donne le moyen d'y parvenir. Ceci, c'est par sa puissance même. C'est la puissance de Dieu qui nous donne cette capacité à nous séparer réellement du monde et à avoir un comportement qui soit digne. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, versets 3 et 4, nous encourage en ce sens et nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, on nous dit ici que nous pouvons participer à la nature divine, parce que Dieu nous donne sa puissance pour pouvoir nous extirper de ce monde dans les ténèbres et ce monde qui n'est conduit que par la convoitise. Nous devons donc nous attacher à Dieu. C'est en nous attachant à Dieu que nous allons pouvoir nous séparer, avoir cette force de la séparation. Et nous attachons à Dieu par des choses concrètes, par le temps que nous passons avec lui. Plus nous passons du temps avec Dieu, dans la prière et la méditation de sa parole, plus nous allons connaître Dieu et recevoir cette puissance qui nous donne la capacité de nous séparer. Nous devons avoir un désir absolu d'obéir à Dieu. C'est ce désir qui plaît à Dieu. Et là, il va nous travailler de façon à ce que nous puissions être comme lui, participer à sa nature divine et pouvoir réussir ce qu'il nous demande, c'est-à-dire nous séparer du monde. Et pour conclure ce message, j'aimerais rappeler un avertissement biblique que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. C'est la voix, c'est l'apôtre Jean qui entend ça. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est-à-dire que le monde va recevoir des fléaux de la part de Dieu. Et Dieu nous demande, si vous ne voulez pas recevoir les mêmes fléaux, séparez-vous. Et sortez de Babylone. Babylone ici, donc, c'est tout ce qui est contre Dieu, c'est ce que représente le monde aujourd'hui. Le monde devenu une véritable Babylone, la ville d'abomination. Et donc, Dieu nous demande de sortir de Babylone. Et je rappelle aussi qu'il y a la séparation spirituelle. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des alliances religieuses impropres. Babylone, c'est aussi l'apostasie, c'est-à-dire que ceux qui portent le nom de Jésus, mais qui n'ont rien à voir. Et les chrétiens n'ont aucune alliance à faire. Et on en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais lors du dernier message, j'ai rappelé ce que nous dit la Bible, n'ayez aucune part avec eux. Toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ seul comme moyen de salut, nous n'avons rien à faire. Voilà. Il faut que nous obéissions à cela, parce que la Bible nous le demande, nous devons sortir de Babylone par cette séparation spirituelle. Et puis la séparation morale dont je viens de parler, et en résumé, c'est le fait que le monde est dans les ténèbres. C'est pour ça que nous devons sortir. Et ces ténèbres sont essentiellement illustrées, j'ai pris deux illustrations, la télévision et Internet, avec ce que ça propose. Il est facile de le voir, en regardant tous les écrans aujourd'hui, de voir que tout cela n'est inspiré que par Satan. Nous ne pouvons pas nous délecter de ce qui se passe sur les écrans aujourd'hui. Nous devons vraiment faire des choix. Et notre réaction face à ça, comme je l'ai dit, c'est de détourner notre regard, de ne pas nous compromettre avec ces abominations. Et parfois, nous avons, en préservant notre œil. L'œil, vraiment, c'est important. Et si Jésus en a parlé, c'est parce que ce que regardent nos yeux, nous devons vraiment y faire attention si nous voulons rester attaché à Dieu et ne pas corrompre notre âme. Et il est parfois légitime que nous soyons en colère par rapport à ce qu'on nous propose, que nous soyons irrités et parfois même dégoûtés par ce que le monde propose. Nous devons éviter ces choses, éviter la convoitise du monde qui court après ses possessions matérielles et les convoitises de la chair, et avoir un comportement exemplaire, digne d'un enfant de Dieu et totalement différent de celui des gens du monde. C'est comme ça que nous nous séparons moralement. Et donc, pour y arriver, évidemment, il nous faut demander l'aide de Dieu quand cela est difficile, parce que la tentation est tellement forte. J'ai parlé de la pornographie qui est proposée sur Internet. La tentation est forte. Et si Dieu ne nous préserve pas, on va se tourner vers des choses comme ça, parce qu'on se dit... En fait, on peut s'habituer à des choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait une expérience avec un ami que je l'ai amené à la gare. Et je lui ai parlé des affiches qu'on expose, que je lui disais que ça ne me plaisait pas. Il m'a dit, non, mais il n'y a rien de spécial dans les affiches. Alors je lui ai dit, écoute, pendant que je vais t'amener à la gare, on va regarder toutes les affiches. On va voir ce qu'il y a de... On va faire attention à ce qui est sur les affiches. Et on arrive à la gare, on a vu une vingtaine d'affiches. Et là, il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, mais je ne faisais plus attention. C'est devenu naturel. Et c'est parce que je lui ai dit, fais attention à ce qui est sur l'affiche. Voilà. Et donc, ne nous laissons pas égarer par le monde et soyons vigilants et pour que nous restions, comme je le disais, des lumières pour ce monde de ténèbres, ce qui attirera des gens vers le Seigneur, parce qu'ils verront qu'il y a de la lumière quelque part, et pour qu'ils ne s'embourbent pas uniquement dans les ténèbres. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 2, 15, « Afin que vous soyez irréprochable, pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Voilà notre mission, briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Et donc demandons à Dieu de nous remplir de sa puissance lorsque nous trouvons que c'est difficile, afin que nous soyons vraiment ces lumières qui brillent pour ce monde de ténèbres. Demandons à Dieu de nous aider à sortir de ce monde, que ce soit moralement ou spirituellement, afin de lui obéir. Là, quand je parle souvent des alliances spirituelles, il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal avec ça. Il faut vraiment demander à Dieu la force d'obéir. Et l'apôtre Jean, je reviens très rapidement sur la prédication d'avant, où l'apôtre Jean nous dit, mais celui qui va plus loin que les Écritures, celui qui ajoute quelque chose aux Écritures, c'est ça le problème que soulève Jean, ne lui dites même pas salut. Ne l'invitez même pas chez vous. Et l'apôtre Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Mais ce qu'il dit est fort. Aucune alliance possible. Et des chrétiens ont du mal avec ça. Nous devons demander à Dieu sa puissance pour pouvoir obéir à ça. Parce qu'on nous dit souvent, ah ouais, c'est par amour qu'on fait des choses. Dieu a dit, séparez-vous. Celui qui va plus loin, les gens ont ajouté des choses à l'évangile. Les gens partent de l'évangile véritable, ils rajoutent un petit quelque chose. Dieu dit, ils sont allés plus loin, ne les recevez même pas chez vous. Donc il faut demander la puissance de Dieu pour pouvoir obéir à ça, à dire non, on ne fait rien avec vous. C'est Dieu qui nous le demande. Il faut être capable d'obéir à Dieu comme ça, parce qu'on va dire, oh là là, mais c'est un peu dur, on manque d'amour. Mais c'est l'apôtre de l'amour qui nous le dit, celui qu'on appelle l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean. Ce qu'il écrit là-dessus, c'est fort. Ceux qui vont plus loin que l'évangile, terminé. L'apôtre Paul dit, les Galates qui sont allés plus loin, ils ont rajouté juste quelques préceptes judaïques, il a dit, c'est un autre évangile, c'est fini, ce n'est plus l'évangile. Séparez-vous. Donc, demandons à Dieu sa puissance pour nous aider à sortir de tout ça, de ces alliances-là. Voilà, j'en ai terminé. J'aimerais juste vous laisser une bénédiction pour terminer ce message. C'est justement ce que donne comme bénédiction l'apôtre Paul aux Galates. Vous trouvez ça dans Galates chapitre 1, versets 3 à 5. Et je m'arrêterai là-dessus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles.
Amen.
Amen.